grand débat, Nicolas Dose sur BFM.
Alors si j'ai bien compris, tant qu'on fonctionnera comme on fonctionne aujourd'hui, on aura beaucoup beaucoup de mal en fait à savoir combien on a vraiment de chômeurs en France. Il faut de nouveaux outils, de nouvelles méthodes pour le calculer. On en débat aujourd'hui avec Pierre Concialdi, qui est économiste et membre du collectif ACDC, les autres chiffres du chômage, avec Bernard Guérien, avec nous, économiste, qui publie L'illusion économique, ça sort le 8 octobre aux éditions Omniscience, Marie-Ange Duménil-Dubuisson, qui est inspectrice générale à l'IGAS, et Thomas Vanek, qui lui est inspecteur à l'IGAS. Bernard Guérien, vous publiez ce livre sur l'illusion économique. Est-ce que nos chiffres et la fiabilité de nos chiffres font partie des illusions économiques, selon vous?
Bon, je pense qu'ils ont une importance relative à ce niveau de finesse, disons. Je pense que, globalement, nous sommes dans un régime capitaliste, et je pense que dans le régime capitaliste, on a besoin d'avoir de stocks de main-d'œuvre. On a besoin de stocks de main-d'œuvre pour faire face aux diverses circonstances, n'est-ce pas? Alors, ces stocks, c'est toujours pas très drôle. Mais si on regarde un petit peu sur le long terme, eh bien, on constate qu'il y a une espèce de stabilité, une espèce de vase communicant, n'est-ce pas, sur la proportion qu'il peut y avoir des gens entre inactifs, actifs, gens au chômage, etc. J'avais une statistique, je vois qu'entre 68 et 2004, pratiquement, vous avez 13% des gens qui se répartissent entre inactifs, actifs, chômeurs, n'est-ce pas. Et il y a une espèce de stock qui est assez stable. Alors, ce qui est arrivé, c'est que avant, par exemple, on avait 9% inactifs, et puis maintenant, on a 5%. Je parle pour les jeunes, là. Je suis en train de parler pour les jeunes, par exemple. Parce que je pense que c'est le problème qui se pose probablement le plus important, c'est au niveau des jeunes. Parce que, quoi que vous ayez dit, je pense qu'entre 25 et 54 ans, en France, le taux d'emploi est plutôt élevé. Il n'y a pas trop de problèmes si on compare avec les autres pays. Donc, en fait, je pense qu'il y a ce genre de problème. Et une autre remarque générale, je reviens du Mexique. Au Mexique, vous savez combien est le taux de chômage au Mexique?
Le taux de chômage mexicain, je ne l'ai pas en tête, mais je pense que vous le savez.
Oui, c'est 3,7%, n'est-ce pas? J'avais vu un journal, augmentation dramatique du chômage, parce qu'il était parti de 3,5%
à 3,7%. C'est le plein emploi, 3,7%, c'est même mieux que le plein emploi.
Bon oui, c'est ça, ça n'a aucun sens. Si vous allez au Mexique, vous allez une pompe à essence, il y a trois types qui viennent pour vous aider à mettre des trucs, etc. Donc, j'ai été un peu avant en Suède. En Suède, alors, ils ont, eux, 4,5%. Seulement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le gouvernement social-démocrate a perdu les élections avec un taux de chômage. Si vous allez en Suède, des gens vous disent, ah oui, mais il y a trop de chômage ici. Il y a chômage parce qu'il y a le chômage caché. Il y a pas de chômage caché.
On s'est posé la question, justement, des chômeurs invisibles en France, quand même.
Voilà, bon, alors c'est.
Vous avez le sentiment, vous, qu'on a des chômeurs invisibles?
Ah non, mais de toute façon, oui, ce que je veux dire, il y a toujours un espèce de stock là, de gens qui passent d'un côté à l'autre.
Si on a 2 millions de chômeurs invisibles sur 2 millions de chômeurs connus, c'est plus un stock.
Oui. Non, mais alors c'est comment on mesure? En Angleterre, vous savez, on a mis 2,5 millions de personnes comme incapables, malades, etc.
Voilà.
Aux Pays-Bas aussi.
On a créé une sorte de tiroir où on mettait les gens, les chômeurs qu'on voulait pas voir.
Alors on les rentre. J'ai vu qu'aux Pays-Bas, maintenant, ils vont rallonger parce qu'ils ont une tendance à avoir besoin de travail. Ils travaillent 31 heures par moyenne seulement par semaine.
On va finir avec vous, Bernard Guérien. Quand vous allez à l'étranger et qu'on vous demande combien il y a de chômeurs en France, qu'est-ce que vous allez répondre aux gens? Vous allez dire, il y a à peu près 2 millions de chômeurs et puis on espère qu'on sera au plein emploi en 2012, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire un taux d'environ 5%. Non, non, en fait, on dit qu'il y a 2 millions de chômeurs, mais il y en a 2 millions qui sont planqués et qu'on ne révèle jamais dans les chiffres officiels. Comment est-ce que vous allez décrire notre situation vis-à-vis, par exemple, de nos camarades européens, si vous êtes amené à en rencontrer?
C'est assez facile. Je pense qu'il y a quand même des facteurs culturels qui sont extrêmement importants dans l'histoire du chômage, comment on évalue. D'ailleurs, quand vous allez à l'étranger, à peu près à n'importe quel pays, on vous pose le problème du chômage. Vous allez aux États-Unis, il y avait une discussion sur les camionneurs mexicains, etc. Il y avait des grandes protestations. Ils vous disent qu'il y a un problème de chômage. Alors on dit, tiens, mais on dit qu'il y a plein d'emplois. Eh bien non, mais il y a des gens qui se disent, si vous lisez aux États-Unis, il y a un gros débat actuellement contre le libre-échange, mais des économistes qui dépôlent le libre-échange maintenant, des gens comme Samuelson, Krugman, ils commencent à dire ah non, on s'est trompé, etc. Parce que ils disent, bon, il y a un problème de chômage, etc. Donc le problème du chômage n'est absolument pas évacué. Vous allez en Suède, c'est la même chose. Il y a un truc assez drôle en Suède, il y avait un grand débat actuellement.
Et ça existe le débat sur la fiabilité des chiffres chez nos voisins?
Absolument. Absolument. Je veux dire, en Suède, leur discussion, c'est de dire, ah non, mais le voisin ne travaille pas assez. Il y a un truc qui est assez étonnant en Suède, c'est qu'il existe le congé pas pour dépression, mais pour, il y a un mot soudain intraduisible, c'est-à-dire pour les types qui sont cramés, comme ils disent, cramés, c'est-à-dire ils ont complètement épuisé. Alors on a droit à ça. Il y a un gros débat actuellement sur la question, est-ce qu'on doit le supprimer ou pas? Le gouvernement a voulu le supprimer, ça n'a pas été supprimé. Alors on est toujours en train de chercher, effectivement, les gens qui travaillent pas. C'est un peu ce que disait Concialdi, n'est-ce pas? Il y a le plein emploi, il y a un tas de boulot comme ça. Donc en fait, on peut comparer, il y a un phénomène culturel. Aux États-Unis, 45% des étudiants sont considérés comme travailleurs, n'est-ce pas? Ils sont à population active. En France, c'est 15% seulement. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça représente exactement? Hein, en Suède, les étudiants commencent à 25 ans. Enfin, vous voyez, je pense qu'il faut tenir compte de ce facteur-là. Ceci étant, je suis pas contre qu'il y ait des chiffres publiés régulièrement, parce que si on commence à faire une étude comme ça, c'est très compliqué, n'est-ce pas? Donc, voilà.
On n'est pas arrivé au bout du problème, mais visiblement, on a quand même avancé. Hein. Merci, Pierre Concialdi, économiste, membre du collectif Les Autres Chiffres du Chômage. Bernard Guérien, vous publiez Illusion économique, à paraître dans quelques jours aux éditions Omniscience. Merci à nos deux amis de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, Marie-Ange Dominil-Dubuisson, inspectrice générale, et Thomas Vanek, qui est inspecteur à l'IGAS.